europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. La pandémie du coronavirus a changé bien des choses dans nos vies. Nous avons adopté des mots, des gestes, des comportements nouveaux. Le principe de précaution généralisé à l'échelle de la planète s'est traduit par une récession quasi mondiale. Presque partout, des plans de relance. En Europe, la Commission va emprunter au nom de l'Union européenne 750 milliards d'euros. Une petite révolution. Mais cette initiative sera-t-elle suffisante pour réconcilier les Européens avec l'Europe après, au début de la crise, un chacun pour soi généralisé et un manque de solidarité manifeste. L'Union européenne sera-t-elle en mesure de mener son ambitieux projet de pacte vert qui devrait rendre le bilan carbone des 27 pays de l'Union nul en 2050? Qu'en sera-t-il des relocalisations des industries stratégiques lorsque l'impitoyable mondialisation aura repris ses droits? À l'issue de la crise du Covid-19, l'Europe d'après sera-t-elle vraiment différente ou pas? Voilà quelques-unes des questions que nous allons évoquer avec nos invités. Ils sont mesures de précaution oblige tous les trois au téléphone. Je vous les présente. Bonjour Ulrike Gerog, guten Tag.
Guten Tag.
Bonjour, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université du Danube de Krems en Autriche et fondatrice de European Democracy Lab. Mais vous êtes en ligne de Berlin car vous êtes une citoyenne allemande. Luc von Middelaar, bonjour.
Bonjour Daniel.
Vous êtes philosophe politique. Votre dernier livre, « Quand l'Europe improvise, 10 ans de crise politique » est paru chez Gallimard en 2018. Vous êtes un citoyen néerlandais, mais vous êtes en ligne de Bruxelles. Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Conseiller en affaires européennes et président du mouvement européen France. Et puis, comme chaque semaine, nous serons duplex avec la rédaction de Courrier International ce dimanche avec Sacha Mitchell. Luc von Middelaar, pour reprendre le sous-titre de votre livre, l'Europe, 10 ans de crise politique, cette dernière crise dont nous ne sommes pas encore complètement sortis, est-elle la plus sérieuse que l'Europe ait connue? Je pose la question à l'historien que vous êtes aussi.
Bon, elle est évidemment très sérieuse. On a vu des images dramatiques dans des hôpitaux dans tout le continent, en Italie, en Espagne, en France et ailleurs. Mais en même temps, à certains autres égards, elle est peut-être moins sérieuse du point de vue de l'Union européenne en tant que telle que une ou deux des crises précédentes. Et je pense notamment à la crise de l'euro entre 2010 et 2015. C'était quand même notre monnaie commune qui était quasi au bord de l'implosion. Et je pense aussi à la crise des réfugiés, des migrants de l'été 2015, quand 1,25 million de réfugiés, de demandeurs d'asile ont franchi la Méditerranée, les Balkans, etc. pour arriver en Europe du Nord. Et là, c'était des images aussi très, très dramatiques comme celles que nous avons connues et que nous connaissons avec la crise du Covid. Mais en plus, du point de vue de l'Union européenne, ce qui était en jeu alors, c'était deux plus grandes réussites de l'Union, c'est-à-dire la monnaie commune, l'euro, et l'espace Schengen sans frontières. Et cette crise, elle a quand même commencé comme une crise de la santé publique, qui est une affaire des États nationaux.
Et puis on peut rappeler que le sanitaire et la santé, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne.
Voilà, on peut le dire tout à fait dans ces termes juridiques, bien sûr, mais pour la première crise, quand le virus a frappé à la porte de l'Europe, en quelque sorte, là, c'était partout en Europe, mais c'était pas une crise européenne en tant que telle.
Et oui, parce que quand même, tous les pays ont été concernés par cette crise, ce qui fait quand même une différence. C'est évidemment une crise mondiale avant d'être une crise européenne, et c'est peut-être une différence majeure. Yves Bertoncini, que faut-il retenir de cette crise que l'Europe a improvisé, pour reprendre cette fois-ci le titre du livre de Luc von Middelaar? Elle l'a improvisé au moins au début.
Oui, l'Europe a improvisé quand elle a à faire face à des crises pour lesquelles elle n'a pas les outils. Et donc, en matière sanitaire, il y a eu une improvisation. On va d'ailleurs en tirer les leçons, je crois. Le Conseil européen a demandé à ce que les compétences de coordination de l'Europe en matière sanitaire soient renforcées. Donc là, oui, il a fallu improviser. Il a fallu laisser les États membres faire, mais donc ils ont improvisé. Il a fallu aussi relâcher des disciplines, mais ça, on l'avait déjà fait en matière de déficit et d'aide d'État. Et donc, de ce point de vue-là, On a pu tirer parti, pas sur les enjeux sanitaires, mais sur d'autres registres, des crises précédentes. J'ai cité le relâchement des disciplines nationales, mais je crois que pour ce qui est de la Banque Centrale Européenne, par exemple, on ne peut pas tout à fait dire qu'elle a improvisé, puisqu'au fond, la Banque Centrale Européenne avait déjà dû intervenir de manière massive lors de la crise de la zone euro, et que là, je suis sûr, elle en a rajouté une couche supplémentaire à la mesure de la crise sanitaire, la crise du Covid-19, de la récession qu'elle crée. Donc ça, c'était quelque chose qui est plus de l'ordre de l'évolution sur des territoires qui avaient déjà été un peu explorés. Donc un mélange, je dirais, de rupture dans la continuité pour l'Europe. Alors, sachant qu'il faut bien dissocier ce qui a finalement été fait de manière progressive, certains diront de manière trop lente, sauf que c'est le reflet des équilibres démocratiques qu'il faut trouver. Vous avez évoqué le plan de relance, mais le plan de relance est seulement une proposition, il va falloir le négocier. L'Europe n'est pas une dictature, elle doit mettre d'accord 27 démocraties nationales, et donc ça prend forcément du temps. Je dirais que tout ça va quand même plutôt dans la bonne direction, mais il faut dissocier ceci, la procédure, les négociations, de l'état d'esprit qui s'est manifesté. Et je dirais que là, bon, on peut être un peu plus circonspect parce que souvent, en cas de crise, ça a déjà été le cas lors de la crise des réfugiés, la crise de la zone euro, on a quand même vu ressurgir formes de nationalisme un peu agressives.
On va évidemment y revenir.
Un peu solitaire, voilà. Bon, ça, je dirais que dans l'émotion, c'est presque inévitable. Donc, je dirais que sur cette base-là, malgré tout, l'Europe a certes plié, mais elle n'a pas rompu, et que je crois même qu'elle sortira, du point de vue politique, pas forcément plus affaiblie de la séquence qu'on est en train de vivre.
Ulrike Grand, on va bien sûr revenir sur le plan de relance de la Commission européenne pour soutenir et tenter de remettre sur pied l'économie européenne qui subit en moyenne une récession de 9 à 10%. Mais il y a eu quelques jours avant l'initiative franco-allemande d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron. Pour mémoire, la proposition d'un emprunt de 500 milliards au nom de l'Union européenne, ce qui veut dire en contrepoint une dette commune aux 27 pays de l'Union. Ulrike Grand, c'est une petite révolution car jusqu'alors, Angela Merkel n'avait jamais voulu en entendre parler.
Bon, déjà, je voudrais quand même avoir ma petite phrase sur le constat de la crise, parce que je voudrais quand même contredire à mes collègues. Je pense que quand même le non-Europe, enfin la non-action de l'Europe au début de la crise a renforcé une crise qui certes n'était pas proprement une crise européenne, mais on a aggravé une crise de virus parce qu'on n'a pas réagi en européenne. C'est-à-dire qu'au lieu de fermer tous nos frontières sous un moment de panique, on aurait pu aussi aider les Italiens, on aurait pu mobiliser les avions. Au moment où ça s'est passé à Bergamo, ou au moment où on a vu les médecins cubains quand même dans les hôpitaux de Bergamo et les tracks russes, on n'a pas vu un drapeau européen, on a fermé nos frontières, on a confisqué le matériel médical au lieu de mobiliser tous nos hélicoptères pour justement sauver les vies de Bergamo dans des hôpitaux à Stuttgart ou à Bordeaux ou je ne sais pas où. Donc je trouve quand même que la non-réaction européenne, la grande manque de l'Europe a aggravé une crise par une fermeture de frontières qu'il n'aurait pas dû avoir. Donc ça, voilà pour contredire. Et je pense que ça va nous tomber dans les pieds parce qu'on a vu que maintenant, il y a 50% des Italiens qui, et on peut les comprendre, ne veulent plus rester dans l'Union européenne. Donc, on va porter lourd du mémoire du non-Europe au moment de la crise, je voulais dire ça. Maintenant, pour le plan Merkel-Macron, je vais être très court. Il y a des calculations, si on fait la déduction de ce qui est en ligne de crédit et les aides directes, parce qu'il y a une partie qui est directe, l'autre est une part de ligne de crédit et tout, il y a des calculations propres qui ont été faites par le Financial Times, qui disent que l'Union européenne va augmenter sa capacité fiscale, c'est-à-dire les transferts fiscaux proprement dits transnationaux, donc à travers des frontières nationales dans l'Europe, va augmenter de 0,6%. Ça, ce n'est pas une révolution. c'est un tout petit pas, c'est une dose homéopathique, c'est un acte qui est certes fait pour stabiliser un système, que le système ne chute pas, et pour avoir une belle rhétorique, mais si on avait vraiment fait une acte solidaire européenne, on aurait pu décider des Corona Bonds, on aurait même pu et devoir, à mon avis, décider des Euro Bonds, on aurait eu une autre...
Et c'est un peu ce qui est en train de se passer.
Non, on va avoir une petite ligne de crédit où on va prendre une petite part de la dette en commun. C'est l'Union européenne qui, en sa capacité de situation juridique, va prendre pour la première fois, certes, va prendre une petite dette. Mais si on compare en gros et en large les chiffres des paquets nationaux, il faut quand même dire que tout ce que l'Europe mobilise en argent, c'est à peu près la moitié, et même pas la moitié, de ce que l'Allemagne mobilise pour elle-même. L'Allemagne mobilise trois fois plus que la France pour ses rescue packages. Donc, c'est-à-dire, les chiffres font pas de sens. C'est-à-dire que c'est une dose homéopathique, c'est certes aussi une acte d'imposition, enfin, vers une imposition propre de la dette européenne. Je nie pas. Il n'empêche que c'est une dose homéopathique et on peut pas appeler ça une Hamiltonian moment, où on fait vraiment un acte souverain et solidaire.
Alors, Lugand Minella, tout de même, l'Union européenne va emprunter à travers la Commission 750 milliards d'euros. 500 milliards seront distribués sous forme de subventions, donc de dons, aux pays les plus en difficulté avec cette crise du coronavirus. Et au premier lieu, il y aura l'Italie, puis l'Espagne, et puis il y aura 250 milliards de prêts à faible taux. Certains ont présenté cette initiative qui crée une dette commune comme une petite révolution. Ulrike Guéraud, qu'on vient d'entendre, parle un petit peu d'initiative homéopathique. Alors, entre la révolution et l'homéopathie, où mettez-vous le curseur ?
Bah justement, vous l'avez bien senti, moi je le mets ni dans la révolution et ni dans l'homéopathie, parce que pour les chiffres dont on parle et qui sont quand même sérieux, sinon si on compare par rapport au budget européen, qui a de 1% du PIB européen, plus ou moins, hein, on va arrondir, la somme de 500 milliards d'euros de prêts, ça représente presque la moitié de cela. Ça veut dire qu'on agrandit le budget européen, qui est énorme en soi, par 50%, ça me paraît un geste majeur. Mais disons que au-delà des chiffres, etc., dont on pourra parler longtemps, je pense que ce qui est plus important dans ce geste et dans cet accord franco-allemand qui a eu lieu avant la proposition de la Commission et qui était nécessaire, je pense, à la Commission pour inscrire ses propositions à elle, c'est qu'il y a en effet une tentative de la part de la chancelière Merkel de surmonter le clivage entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et je pense que ça, c'est fondamental, parce que ce qu'on voyait avec cette crise du Covid et ses aspects économiques et financiers, c'est justement la réapparition des blessures des crises précédentes, des crises financières de l'euro entre le Nord et le Sud de l'Europe. Alors là, je crois que la chancelière Merkel, qui va d'ailleurs prendre la présidence de l'Union européenne à partir du 1er juillet, raisonne vraiment différemment. Elle comprend maintenant que venir au secours des pays du Sud et de l'Italie et de l'Espagne en particulier, vous l'avez dit, c'est non pas uniquement un acte de solidarité avec des victimes du virus et de la maladie du Covid, mais c'est aussi un acte qui est dans l'intérêt même de l'économie allemande, de sa puissance exportatrice, etc. Donc moi je trouve que le débat allemand, il devient moins hypocrite comme il a été, puisque dans le passé, les Allemands ont souvent avancé des positions vis-à-vis de leurs partenaires sous couvert de leur donner des leçons de morale sur il faut pas dépenser trop, etc. Tandis qu'en fait, ils avançaient par cela même aussi leurs propres intérêts. Mais là, aujourd'hui, elle parle ouvertement de ses intérêts et elle dit au public allemand et au public européen, voilà, nous le faisons en vue de la solidarité nécessaire, mais aussi puisque c'est bien pour nous. Et je trouve que c'est un message beaucoup plus fort et plus crédible quelque part et qui change complètement l'ambiance.
Et il se déplace,
si vous voulez, vers le centre. Et ça, c'est des mouvements politiques fondamentaux qu'il ne faut pas sous-estimer et qui dépassent encore une fois les discussions sur des taux d'intérêt, etc.
Ulrich Gréau, j'ai bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec ce que vient de dire Luc Van Middelaar. Je voudrais entendre quand même Yves Bertoncini sur ce thème, sur ce sujet. Est-ce que l'Allemagne a changé ou pas? Est-ce que c'est une approche... Il y a une explication un peu romantique à ce changement en Allemagne qui, pour la première fois, accepte qu'il y ait des dettes européennes, des dettes communes. Alors, une explication un peu romantique, ce sont les dernières années du dernier mandat d'Angela Merkel. Elle va prendre la présidence tournante de l'Union européenne, comme l'a dit Luc Van Middelaar, à partir du 1er juillet, où il y a évidemment l'explication économique. L'Allemagne ne peut pas aller bien dans une Europe qui irait mal, c'est ce qu'a dit Angela Merkel. C'est-à-dire que l'Allemagne a besoin d'exporter, et pour exporter, elle a besoin que l'Europe se porte le moins mal possible. Yves Bertoncini, entre ces deux explications, quelle serait la vôtre?
Oui, je dirais que le système allemand ne repose pas beaucoup sur la psyché d'une seule personne, à la différence du système français, et que donc, moi, les explications romantiques, quand ils s'appliquent à l'Allemagne, ils n'y croient pas trop. Je pense qu'au contraire, effectivement, la chancelière a formulé un récit national qui concorde avec le récit européen, que souvent, il faut faire aimer l'Europe dans chacun des pays membres pour des raisons différentes, et qu'il faut montrer que l'Europe, au-delà d'être une aventure collective exaltante, qui nous permet à nous tous de défendre nos intérêts et nos valeurs dans le monde, eh bien, elle correspond aussi aux intérêts des pays qui la composent. Et c'est ça qu'a fait Angela Merkel. Alors après, on parle de la révolution dont il s'agirait. Je vais quand même rappeler deux choses. Premièrement, l'Allemagne, chaque année, depuis 70 ans, transfère énormément d'argent via le budget communautaire. Donc la solidarité financière, c'est quand même pas nouveau. L'Allemagne est un des principaux contributeurs nets. D'ailleurs, même chose pour les Pays-Bas, qui transfèrent plus que la France à proportion de leur richesse nationale. Même chose pour la France, l'Italie, l'Autriche, etc. Donc tous ces pays sont déjà solidaires. La solidarité financière européenne, c'est déjà une réalité. Deuxièmement, c'est pas tout à fait la première fois qu'on emprunte. La Commission a déjà emprunté au moment de la crise financière. Il y avait le mécanisme européen de stabilité. Quand on dit que c'est la première fois qu'on fait des dettes communes au niveau européen, c'est pas tout à fait exact. Le mécanisme européen de stabilité aussi, il a emprunté. Simplement, on empruntait pour prêter. Et donc là, ce qui est tout à fait nouveau, et donc c'est extrêmement novateur, à défaut d'être totalement révolutionnaire, c'est qu'on va emprunter pour transférer de l'argent. On en prêtera une partie, mais pour l'instant, il est prévu, je ne sais pas si ça va rester comme ça d'ailleurs, que deux tiers, environ 500 milliards seront transférés à des pays qui en ont besoin, et notamment l'Italie. Donc oui, ça c'est extrêmement novateur, mais je dirais, si vous voulez revenir à l'Allemagne, mais sous le contrôle de Ricke, naturellement, que ce n'est là encore pas la première fois que l'Allemagne concède d'un point de vue conceptuel et financier. Rappelons-nous tout ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne face à la crise de la zone euro. Ça n'a pas fait beaucoup plaisir en Allemagne. D'ailleurs, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe vient de nous le rappeler. Le mécanisme européen de stabilité qui a aidé l'Irlande et la Grèce, ça a quand même donné lieu à la création de l'Alternative Deutschland, donc un grand euroscepticisme allemand. Donc, d'une certaine manière, ça, là aussi, c'est pas la première fois que Mme Merkel lâche du lest, si je puis dire, l'application ultra flexible du pacte de stabilité, l'union bancaire et ainsi de suite. Et donc, pour conclure, je dirais qu'il y a toujours un hiatus entre les faits tels qu'ils se produisent et le narratif, l'histoire qu'on va raconter. Et si vous le permettez, c'est la même chose s'agissant de la solidarité européenne au début de la crise. Parce que moi, je veux bien que les Cubains aient davantage aidé l'Italie que l'Europe. Enfin, symboliquement. Et donc l'Europe a improvisé sa communication et elle a été lamentable, bien sûr. La solidarité européenne n'a pas été incarnée. Madame von der Leyen avait fait un voyage en Grèce au moment où il y avait des demandeurs d'asile qui arrivaient de Turquie. Elle avait incarné quelque chose. Elle a raté l'occasion historique d'aller faire un voyage en Italie du Nord avec Charles Michel et David Essa. Bien sûr, mais de là à dire que l'Europe a été absente et a moins aidé que la Russie et Cuba, voire la Chine, là, je crois qu'on s'égare complètement.
Allez, Ulrich Gréau, je suis sûr que vous avez envie de réagir à ce que vous venez d'entendre de la part de Luc Van Middelaar et de Yves Bertoncini, assez brièvement si possible.
Ah non, je vais être au moins au long que mes collègues, donc non, je, franchement, déjà, nous sommes dans un carrefour de l'Europe, et on parle de l'Allemagne, et des pays du Sud, de l'Italie et tout. Je trouve qu'on devrait changer de vocabulaire, parce que ce qu'on est en train de faire avec un paquet européen, c'est stabiliser une monnaie européenne et un marché commun. Et je trouve que déjà, si nous, on le conceptualise comme s'il y avait une Allemagne plus ou moins généreuse qui donne de l'argent dans les pays du Sud, d'abord on ne donne pas pour les pays du Sud, ni aux citoyens du Sud, on le donne pour des industries, pour stabiliser justement nos industries, parce qu'on a reconnu une interdépendance.
On le donne aussi pour le chômage partiel, tout de même.
Non, c'est très important que la plupart des lignes de crédit, regardez là le débat sur justement, et c'est ça le débat, sur ce qu'on donne au social, et par exemple les Espagnols qui ont décidé d'avoir une basic income, voilà, et le débat en Allemagne, c'est oui ou non, les Espagnols ont le droit d'utiliser justement les lignes de crédit pour financer leur programme social maintenant après la crise. Donc, là où je veux en revenir, je trouve que si nous, on prétend être les intellectuels qui discutent des choses comme ça dans un carrefour de l'Europe, parlons de l'Europe. Et c'est pas les Allemands. Déjà, il n'y a pas l'Allemagne. L'Allemagne, elle est déchirée au moins en trois bouts. Il y a l'Ouest, il y a l'Est, il y a le Sud. Quand on parle de l'Allemagne, quand on parle de l'Allemagne exportatrice, il y a uniquement le Sud dont on parle, c'est-à-dire Baden-Württemberg et Bavière. Je vous invite à venir dans l'Est, je vous invite à venir dans le Nord-Westphalie. C'est vraiment pas bien. Et donc, la déconstruction, justement, de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de faire d'imaginer une compétitivité d'une économie dite nationale vis-à-vis une autre économie dite nationale au sein de l'Europe, c'est-à-dire au sein d'un marché commun, au sein d'une monnaie unique, je trouve que c'est fondamentalement faux. Et si on doit tirer une leçon de cette crise, c'est-à-dire « we are in this together, we get out of this together », et donc il n'y a plus de l'Allemagne, il n'y a plus d'Italie, il n'y a plus d'Espagnol. Là, dont il s'agit maintenant, c'est de concevoir justement l'Europe, surtout dans une carrefour de l'Europe, sur le niveau d'une citoyenneté européenne, où on pense justement, est-ce qu'on veut être égal à la sortie de la crise, égal quant au niveau des taux d'intérêt, égal au niveau du traitement social, égal au niveau justement du programme sûr, c'est-à-dire le court emploi et tout cela. Et c'est là justement où il faut dépasser les lignes nationales.
Alors, on a bien compris que vous êtes en opposition à Hubert Toncini et à Luc Van Middelaar. Luc Van Middelaar, vous n'êtes pas le porte-parole de Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, bien que vous soyez vous aussi néerlandais, mais ce plan de la Commission n'est pas encore accepté par tous les États membres. Il y a les oppositions, elles sont plutôt faibles. Il y a quatre pays, on les appelle tantôt frugaux, tantôt radins. Il y a la Suède, l'Autriche, le Danemark et les Pays-Bas. Ça représente environ 35 millions d'habitants. Deux pays n'ont pas l'euro comme monnaie, donc ils sont un peu plus faibles que les autres dans le débat. C'est la Suède et le Danemark. À votre avis, est-ce que les Pays-Bas et les trois autres pays frugaux et radins peuvent prendre le risque de faire capoter ce plan d'un mot, puis après on va passer à autre chose, on va avancer dans le débat?
Je pense que les Pays-Bas sont en effet dans une position délicate depuis la proposition de l'Allemagne, puisque c'est très bien d'être radin si on a l'Allemagne à ses côtés. Ça, c'est un petit peu moins confortable si on est tout seul, tous les quatre. Et je pense que les quatre pays le savent très bien, qu'ils ne vont pas pouvoir opposer leur veto pur et simple à ce plan d'ensemble, qu'ils vont essayer de négocier, peut-être de baisser tel ou tel chiffre, ou d'avoir un petit peu plus de conditions dans la façon dont l'argent va être dépensé ou distribué. Donc je pense que vous avez raison de rappeler qu'en effet, c'est un accord qui doit être conclu entre les 27 pays de l'Union européenne pour avant qu'il puisse y avoir un accord sur ce budget et sur ce plan de relance. Mais du moment, encore une fois, que la France et l'Allemagne se mettent au milieu du débat, ça donne déjà une force
au projet et au plan de relance.
Une force au projet qui ne veut pas être arrêtée par la haie et viennent avec leurs camarades scandinaves.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, l'Europe d'après sera-t-elle vraiment différente ou pas? Nous sommes avec Ulrike Guéraud, professeur de sciences politiques à l'université du Danube de Krems en Autriche, avec Luc Van Middelaar, philosophe politique, son dernier livre « Quand l'Europe improvise, 10 ans de crise politique » est paru chez Gallimard, et avec Yves Bertoncini, conseiller en affaires européennes et président du mouvement européen France. À l'occasion de cette crise, les Européens ont découvert que les principes actifs des principaux médicaments étaient produits non pas en Europe, mais en Chine ou en Inde et que ces produits étaient stratégiques, d'où l'idée d'une relocalisation d'une certaine industrie en Europe. Alors, ça va tenir cette idée ou pas, ou la notion de profit média va-t-elle reprendre le dessus comme toujours? Pour aller un petit peu plus loin dans le débat, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Vous avez retenu, Sacha, cette semaine un article du site tchèque Project Syndicate, basé à Prague, et qui propose une analyse originale en suggérant que les Européens devraient profiter de cette crise pour mener une réflexion sur la question de la souveraineté, entre bien sûr souveraineté nationale et souveraineté européenne.
Oui Daniel, alors on l'a beaucoup entendu depuis le début de la crise du Covid-19, cette pandémie doit nous contraindre à repenser la mondialisation. Une mondialisation qui a apporté une plus forte croissance économique, certes, mais qui a dans le même temps été un facteur d'accroissement des inégalités. Et plus problématique, selon le politologue britannique Mark Leonard, qui écrit donc sur Project Syndicate, la mondialisation semble avoir sapé la capacité de l'État à gérer des scénarios hautement improbables à l'image des pandémies. Or, comme l'a montré cette crise, les gouvernements européens notamment doivent pouvoir protéger leurs citoyens contre les menaces induites par la mondialisation, qu'elles soient environnementales, épidémiques ou financières. Du coup, l'idée de Mark Leonard, c'est de repenser la notion de souveraineté en Europe, de lancer une sorte de réflexion sur la manière dont l'intégration européenne peut soutenir les souverainetés nationales sans les menacer.
Alors, plus concrètement, qu'est-ce que propose Project Syndicate?
Pour ce faire, le Britannique y propose trois pistes. D'abord, entre la quête de l'autosuffisance et des chaînes logistiques toujours plus intégrées, l'UE peut ouvrir une troisième voie. Étant donné qu'il n'est pas réaliste pour les petits États membres de prôner l'indépendance dans tous les domaines, l'UE devrait pouvoir produire et stocker des ressources essentielles, que ce soit des respirateurs ou de la nourriture, par exemple, puis s'assurer que ces ressources soient disponibles pour les membres du marché unique. Deuxièmement, dans la bataille entre autocratie et démocratie, l'Europe doit montrer que les principes démocratiques peuvent être préservés même en cas d'état d'urgence, insiste le politologue. À cet égard, la solution serait de créer, par exemple, un cadre judiciaire afin de garantir que les données collectées pour le suivi du Covid-19 ne soit pas conservé à perpétuité. Enfin, l'Europe a l'occasion de combler le fossé entre le souverainisme et le multilatéralisme, croit Mark Leonard. En se rapprochant des pays partageant les mêmes idées, l'UE peut façonner l'ordre international afin qu'il reflète ses valeurs et ses intérêts essentiels. Par exemple, sur la question du changement climatique, l'UE pourrait utiliser les ajustements fiscaux aux frontières pour contraindre ses nombreux partenaires commerciaux à internaliser les coûts de leurs émissions de gaz à effet de serre. À terme, conclut le politologue britannique, la crise du Covid-19 pourrait permettre au projet européen de revenir à ses racines, c'est-à-dire concilier les prérogatives de l'État-nation avec les réalités de la mondialisation, plutôt que de sacrifier la souveraineté nationale sur l'autel du dogme néolibéral.
Yves Antoncini, intéressant cet article. Comment l'Europe peut-elle se positionner entre cette notion de souveraineté qui est, on a vu, un petit peu nationale, en tout cas au début de la crise, cette nécessaire souveraineté européenne? On a vu, par exemple, que évidemment l'Europe allait s'intéresser de plus près aux affaires sanitaires, que le virus ne tient pas vraiment compte des frontières à l'intérieur de la zone Schengen, et puis de la mondialisation qui risque de repartir.
Alors, il est vrai que l'Union européenne, là, doit faire une évolution doctrinale, parce que la construction européenne, elle a été d'abord fondée sur l'économie et sur le fait qu'il fallait limiter les souverainetés nationales parce qu'elles avaient produit des guerres. Et donc, c'est une évolution qui est amorcée maintenant, cette évolution vers un regard un peu plus politique sur les phénomènes économiques et qui, après le Covid-19, montre bien qu'il y a le souhait de renforcer l'autonomie stratégique des Européens, à la fois avec des mesures nationales et des mesures européennes. Moi, je publie une note pour Terra Nova sur ce sujet, renforcer notre autonomie stratégique. Et ce qui me frappe en ayant réfléchi à cette question, c'est que, bien sûr, pour faire cela, il va falloir trouver un équilibre entre ce qui est fait au niveau des États membres et ce qui est fait au niveau de l'Union européenne à partir d'un diagnostic partagé. On peut tout à fait reconquérir une forme d'autonomie stratégique en ayant des productions qui sont beaucoup plus dispersées, localisées ailleurs qu'en Chine. En Chine, mais aussi ailleurs, en Afrique du Nord, en Europe, bien sûr, mais la relocalisation est seulement un des éléments. Et puis, il y a évidemment une question importante, c'est la question des secteurs qu'il va falloir essayer de conserver ou d'encourager sur notre sol, parce que on est sûr que En matière médicale et pharmaceutique, il faut faire mieux, il faut que les Européens musclent leur jeu. Mais maintenant, il va falloir regarder quels sont les autres secteurs jugés comme stratégiques et qui doivent, pour une partie d'entre eux, être soutenus par des productions sur le sol européen. Mais ça, c'est un débat assez passionnant, mais je dirais que au-delà des détails techniques, ce qui est nécessaire, donc, et je crois que le Covid-19 va nous y aider, c'est de considérer qu'évidemment, hein, même si les entreprises sont libres, hein, elles localisent où elles veulent, on peut quand même leur envoyer des aides, d'abord des signaux hein, sous forme d'aides d'État, de programmes de financement européens, mais aussi des signaux réglementaires, j'ai parlé des taxes carbone aux frontières, pour quand même évoluer vers une mondialisation qui reste ouverte, mais qui conduit à localiser sur notre sol ou assez proche de nous nombre de denrées et de produits essentiels en cas de crise pour qu'on ne se retrouve pas aussi démunis que le virus est arrivé sur nos côtes.
Ulrike Guerau, en Allemagne, évidemment, le tissu industriel est très vaste, c'est même le plus vaste d'Europe, le plus complet. Est-ce que ce thème de l'autonomie stratégique a été mis en évidence ou pas? On a vu que les Allemands étaient plus aptes à construire, à fabriquer des respirateurs, quoi, fabriquer des masques, etc. Le tissu industriel est évidemment beaucoup plus dense. Est-ce que le thème de l'autonomie stratégique revient dans le débat allemand ou pas tant que ça?
Bah, évidemment, il est revenu autonomie stratégique par rapport aux masques ou par rapport à la production justement de médicaments, médicaments pour le cancer, je ne sais pas quoi. Mais je voudrais quand même revenir à l'article de Marc Léonard que je connais fort bien, parce qu'il faut quand même aussi éviter une amalgamation du mot d'autonomie ou d'indépendance avec la souveraineté. Parce que la souveraineté, ça concerne le peuple. Il n'y a pas un État national qui est souverain, il n'y a pas l'Europe qui est souverain. Donc, certes, là maintenant, on va regarder un peu la production industrielle et tout. Oui, je voudrais bien rappeler, par exemple, que peu avant Corona, la Commission avec Madame Vestager a pris justement la décision de ne pas, par exemple, laisser fusionner Alstom et Siemens pour ne pas pouvoir produire un grand train, high-speed train, dans l'Europe sous justement la loi de compétition européenne, alors qu'aujourd'hui, quand il s'agit de regarder, voilà, sur une question d'autarquie ou d'indépendance de l'Europe dans des biens stratégiques, que ce soit stratégique digital, que ce soit le stratégique dans les nouvelles technologies, fintech ou alors climatologie, mobilité électronique, les batteries, tout cela, il faudrait quand même revoir aussi justement ça, c'est-à-dire le droit de compétition européenne qui, avant Corona, a encore empêché qu'on fusionne nos grandes industries pour faire des champions européennes qui sera en mesure justement de produire des biens stratégiques, que ce soit dans l'énergie, la mobilité, médecins, un peu partout, mais encore une fois, c'est autre chose d'être assis en Allemagne et de dire il faut produire maintenant d'une manière nationale ou d'être assis au Luxembourg, en Malte ou en Estlande pour dire il faut produire national. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de production nationale. Si maintenant on produit, ce n'est pas des champions européennes et donc ça dépasse justement l'Allemagne, souveraineté, indépendance, mais il faudrait raisonner justement dans la capacité de produire des champions européennes dans des technologies de demain et justement les financer.
Luc van Middelaar, vous avez été au cœur du dispositif européen. Vous avez travaillé notamment avec Herman Van Rompuy, l'ancien président du Conseil européen. La question que pose Ulrike Guerau, elle est intéressante. Effectivement, la fusion entre Siemens et Alstom au niveau du ferroviaire européen n'a pas pu se faire. Au grand dam qu'il fallait garder une concurrence et qu'il y aurait un risque de monopole européen, mais pas un monopole mondial. Est-ce que c'est le bon moment pour l'Union européenne, d'essayer de changer un peu son logiciel idéologique?
Oui, je crois que c'est tout à fait un bon moment, comme mes deux collègues l'ont rappelé. Et je crois que la crise Corona, elle accélère des mouvements de fond qui étaient déjà en train de se produire. Elle fait éclater au grand jour la puissance de la Chine. Elle aggrave les tensions entre les États-Unis et la Chine sur le plan géopolitique. Et là, on se rend compte qu'en Europe, à cause de la façon dont nous nous sommes organisés en interne, on a pensé l'économie toujours sans puissance, sans politique, comme un système de règles, à juste titre et aussi avec des grands avantages, parce que des règles, voilà, ça donne de la de la prévisibilité, ça donne un cadre juridique stable, ça permet d'éviter le népotisme et que sais-je. Mais là, on se rend compte que ce système-là, qu'on aurait bien vu voir aussi à l'échelle mondiale, il ne va pas se produire, il ne va pas se manifester à l'échelle mondiale. Donc, il faudrait bien que nous nous organisons en tant qu'Européens, un peu comme le font aussi les Chinois ou les Américains, c'est-à-dire intégrer une perspective géopolitique, une perspective de puissance dans notre façon d'organiser la vie économique. Et je pense que tous les débats découlent de ce constat de fond. C'est-à-dire, il faut que l'Europe se défende mieux. Et on peut le faire soit en relocalisant telle ou telle industrie ou en diversifiant, etc. Mais le constat de base, c'est qu'il faut se défendre mieux. On ne peut pas compter dans toutes les situations sur les Chinois, même pas sur les Américains. Je rappelle que le président Trump vient d'annoncer il y a quelques jours le retrait d'un cinquième des troupes américaines en Allemagne. Donc bon, c'est pas le même débat, là on est dans le cadre de la défense et du maintien de l'armée américaine sur le sol européen, mais disons c'est le même.
C'est évidemment un signe.
Bon, c'est un signe d'un mouvement de divergence entre les deux côtés de l'Atlantique, et c'est-à-dire que les Européens qui ont, depuis 1945, ont plus ou moins compter sur les Américains pour nous défendre, soit contre les Russes, soit peut-être aujourd'hui contre les Chinois à terme, se rendent compte, et nous devons nous rendre compte, que nous sommes seuls. Et que, donc, on n'a pas d'autre choix que au moins s'organiser en tant qu'Européens dans ce monde qui devient plus dur. Ça demande, comme l'a dit Yves Bertoncini, une évolution doctrinale, parce que notre façon de nous organiser en interne, ça a été tout le contraire. Ça a été de nier la puissance, de nier l'histoire, de nier les différences géographiques et autres, et il faut maintenant prendre en compte tout cela. Donc c'est une vraiment, là, je pense qu'on pourrait parler de révolution conceptuelle qui prendra du temps et où la crise du corona donne un vrai coup d'accélérateur qui est, je pense, très bienvenu.
Et Yves Bertoncini, ce que vient de dire Luc von Mideler, on peut peut-être le résumer avec deux petites phrases. D'abord, l'Europe progresse dans les crises, on est en train de le constater une nouvelle fois, et puis peut-être aussi que l'Europe est en train de devenir plus politique, en tout cas qu'elle va le devenir, malgré elle, face à une commission qui était jusqu'alors, l'émanation de l'Union européenne, qui était essentiellement normative. Il y a un changement majeur.
Oui, c'est un changement qui s'est esquissé déjà. Si on regarde bien le traité de Maastricht, c'était pas que l'euro, hein, c'était la coopération policière judiciaire et puis aussi la politique étrangère, sécurité et de défense. Simplement, donc les fondations étaient là. Simplement, c'est parce que le monde a changé dans les années 2000-2010 que notre voisinage immédiat et puis des rivaux plus lointains comme la Chine, la Corée du Nord ont émergé, que maintenant il y a la nécessité de se défendre davantage, de muscler notre jeu, d'autant que notre partenaire traditionnel, les États-Unis, n'est plus très fiable quand il n'est pas tout bonnement répulsif. La chancelière Merkel, vous dites qu'il faut résumer, l'avait dit elle-même. Il faut maintenant qu'on prenne notre destin stratégique entre nos mains. Simplement,
oui,
ça prend du temps. Les choses étaient déjà en cours. Regardez le Fonds européen pour la défense, la coopération structurée permanente, il y a même des projets industriels franco-allemands en matière de défense. Tout ça s'inscrit dans le moyen terme, et je suis d'accord avec Luc, la crise du Covid-19, d'une certaine manière, permet de catalyser les efforts des uns engagés, parce qu'en fond, elle illustre notre vulnérabilité collective et donc la nécessité que nous, Européens, on prenne en main tous ensemble notre sécurité collective, sur un registre très large, pas seulement sanitaire, sécuritaire, et ainsi de suite.
Il y aura une nécessité de prendre en main notre destin, c'est un peu ce que vient de dire Yves Bertoncini.
Oui, oui, on prend en main notre destin, mais là, simplement ce que je vois, politiquement, on fait quand même pas un sursaut avec la crise de Covid, c'est-à-dire on met maintenant en main beaucoup d'argent pour justement financer la nouvelle technologie de FinTech, la stratégie d'indépendance et tout cela. Je suis pas contre, tout ça c'est bien, mais concevoir que toujours quand on a des poussées de technologie, il faut aussi changer ce que les anciens marxistes appelaient le Überbau, donc la superstructure, c'est ça le problème, parce que dans cette émission, on n'a pas parlé des citoyens, on n'a pas parlé du populisme, on n'a pas parlé de la conférence sur la future de l'Europe, des citoyens européens, on n'a pas parlé de la crise.
On n'a pas le temps de parler de tout.
Voilà, non, on ne peut pas parler de tout, mais le plus grand risque, c'est que maintenant l'Europe avance que dans ses partis apolitiques, dans les politiques justement de technologie, de renouvellement, tout cela, et qu'on va faire une poussée vers une indépendance stratégique, et tout cela va se faire sur un plan industriel, sans pour autant pousser, faire une réelle poussée de l'Europe démocratique, de rattachement des citoyens à la structure de l'Europe et tout cela. Et je crains que justement si on fait cette poussée vers sur les technologies et tout cela, on est en train de perdre les citoyens et on va avoir un grand problème en 24 aux prochaines élections au Parlement européen, parce que c'est là où justement les populismes, ça creuse un écart entre l'Europe et les citoyens, et on ne sauvera pas ça avec la capacité de l'Europe de construire des batteries.
Alors, tout de même, on peut constater que dans cette crise du Covid-19, les populistes ont été très peu présents dans le débat. C'était tout bêtement un constat. Luc Van Nubiedalar, est-ce que vous seriez tenté de dire que, ou pas, comme le dit Rick Gehrer, que l'Union européenne est en train, ou pas, de réussir son quatrième test existentiel après ce que vous avez déjà évoqué en début d'émission, la crise financière, la crise de l'euro, celle des migrations, et puis maintenant celle de la pandémie. Est-ce que, évidemment, on est à chaque fois dans un test existentiel, est-ce que vous seriez tenté de dire que l'Europe est en train de se donner les moyens de réussir ce test? Tous les trois, je vous poserai la question et ce sera votre conclusion aux uns et aux autres. Luc Van Nubiedalar, pour commencer.
Moi, je pense que l'Union européenne, après en effet un début plus qu'hésitant, retrouve un sens de direction et d'action, et notamment depuis la proposition franco-allemande de Merkel et Macron. Et je pense que le sentiment de vulnérabilité qu'a mis au jour la crise Covid sur beaucoup de plans va maintenant se traduire davantage dans des façons de nous organiser ensemble. Peut-être un mot sur le thème qu'a abordé Ulrich Higuero, c'est-à-dire un écart entre les populations, et les décisions européennes. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas, à mon avis, le grand soir d'une révolution constitutionnelle et politique qu'on s'en sortira. Il s'agira avant tout pour l'Europe aussi de regagner en crédibilité dans des domaines concrets, de montrer aux citoyens qu'ensemble, nous sommes mieux à même de défendre nos intérêts. Et ça peut être même avec des batteries et de la pénicilline, et que nous sommes mieux à même aussi de défendre nos valeurs dans la grande bataille entre la Chine et les États-Unis qui s'y annonce, qui s'est drôlement rude, et où nous avons tout intérêt en tant qu'Européens de savoir définir une position autonome.
Alors, est-ce que l'Europe est en train de définir cette position autonome, Ulrich Gehrer? Luc Van Nubiedalar, disons, bon, je ne suis pas finalement en désaccord avec Ulrich Gehrer sur le thème de la démocratie des citoyens.
Non, je pense que justement, c'est-à-dire ça dépend beaucoup où on regarde. Par exemple, si vous regardez le 9 mai, il y avait une très grande initiative qui d'ailleurs avait beaucoup plus de spectateurs dans l'Internet que les déclarations officielles de Mme von der Leyen le 9 mai, 70 ans de l'anniversaire de l'Europe. Ça s'appelait Citizens Take Over Europe. Et c'était 30 NGOs qui, à travers du continent, justement, ont réclamé une constitution européenne, une assemblée, une constituante, une démocratie. Et donc, il faut reconcevoir le système démocratique de l'Europe, il faut le mettre sur les épaules des citoyens. Je trouve qu'il faudrait abandonner le Conseil, parce que si justement on veut sortir ensemble sur la base égale de cette crise, c'est pas des veto néerlandais et danois et je ne sais pas quoi dont on aura besoin, mais justement des structures de gouvernance qui permettront l'indépendance stratégique. Et du moment où on est en train de raisonner uniquement en indépendance stratégique, donc on regarde que les biens et les marchés et les finances et on regarde pas l'attachement des citoyens à la démocratie qui gouverne tout cela, je trouve malheureusement que l'Europe sera une Europe post-démocratique ou apolitique et aura pas de chance parce que les populistes savent ça trop bien et ils jouent dessus.
Yves Bertoncini, à vous de conclure. Votre mot de conclusion, est-ce que l'Europe est en train de réussir son quatrième test existentiel ou pas ?
On doit mettre d'accord 27 démocraties nationales. Donc évidemment, ça marche moins bien qu'en Chine, qui est une dictature, ou qu'aux États-Unis, qui est un pays fédéral. Là, nous sommes une forme de fédération imparfaite, largement une confédération. Il y a des institutions fédérales, comme la Banque centrale, qui fonctionnent très bien, de manière efficace. Et donc, il faut quand même prendre le temps du débat, dans la compréhension mutuelle, le respect, pour forger des compromis. C'est aussi ça l'identité de l'Europe. Et donc la grande difficulté, c'est qu'elle doit passer le test, hein, pour vous répondre, cher Daniel, auprès de 27 opinions publiques nationales. Il y a évidemment des sujets où il y a des convergences entre les populations des 27 pays. Je crois notamment que sur cette idée que l'Union fait la force, ce serait peut-être plutôt les technostructures diplomatiques et parfois industrielles, hein, qui font obstacle. Mais quand même, il faut bien reconnaître, et je termine là-dessus, que sur le reste, il y a une unité dans la diversité. Et donc, au fond, moi, ce qui me frappe dans les 10 dernières années, c'est pas tant le clivage Bruxelles contre les peuples, même s'il y a à faire, hein, pour démocratiser des institutions européennes. Non, c'est que les peuples eux-mêmes se sont divisés. Ils n'étaient pas d'accord. Et donc, c'est là qu'il faut faire porter le fer. Il faut essayer de convaincre, de rassembler. Donc, c'est ça, le destin de l'Europe, c'est d'avancer sans forcément être plébiscitée par ses peuples, parce qu'elle doit avancer sur la base de compromis démocratiques.
Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Carrefour de l'Europe avec Sacha Mitchell de Cornier International, technique Jérémy Besset, réalisation Guillaume Munier. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe en balado, comme on le dit joliment au Québec, le site rfi.fr, rubrique podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast de l'émission. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescalles, où que vous soyez, en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.